fonctionne. Donc bonjour à tous, ceux qu'on n'a pas croisés dans les couloirs ou à la cafétéria. Merci pour cette belle invitation pour nous, pour l'organisation de cette journée, qui nous apporte, j'ai l'impression, beaucoup plus de questions que de réponses. Donc nous sommes trois enseignants de la circonscription d'Évian. Donc pour ma part, Frédéric Lazzarotto, je suis conseillère pédagogique depuis 3 ans à la circonscription.
Marie-Christine Cosson, je suis actuellement déchargée de classe. Je suis animateur informatique ou référent numérique, les nouveaux noms arrivent. Et je suis aussi maître formateur.
Et puis Anne-Hélène Montfort, donc enseignante en classe de CM1, CM2 dans la circonscription d'Évian.
Donc nous allons vous présenter notre projet que nous avons mené l'année dernière sur l'année scolaire 2015-2016 qui s'appelle Robots d'Évian, donc qui est un lisible en plusieurs mots, 1, 2 ou 3 ou même 4, vous amuserez à le faire. C'est une expérimentation de programmation que nous avons menée uniquement en milieu scolaire. Donc aujourd'hui en France, coder ou ne pas coder, on l'a vu ce matin, c'est plus tellement la question puisque cette année, avec la rentrée de septembre, on est en train de mettre en application les nouveaux programmes qui stipulent notamment qu'en cycle 3, par exemple, tous les élèves devraient recevoir un enseignement lié à la programmation. Donc pour être un peu plus imagé, ça peut correspondre à coder des déplacements d'un objet virtuel ou non. Et de commencer à concevoir des programmes sur des logiciels plus ou moins simplifiés. Donc ces nouvelles compétences posent des questions vives à notre sphère enseignante. Parmi celles-ci, dans quelle matière on va pouvoir intégrer ces nouvelles compétences? Comment va-t-on s'y prendre? Et puis aussi, quels en sont les bénéfices pour nos élèves en classe? Donc c'est à la suite d'un stage qui a été suivi, un stage graine de science, donc, par mes deux collègues ici présentes, que nous avons anticipé l'an dernier l'avènement de cette programmation scolaire en formant et en accompagnant 17 enseignants de la maternelle à la 6e même. Ces enseignants représentaient à peu près du coup 350 élèves. Et sur cette expérimentation, nous avons pu recueillir leurs réactions, leurs appréhensions et leurs analyses. Donc, pour mettre le contexte, notre vision se limite uniquement sur le scolaire, avec une seule année de pratique, mais voilà ce que nous avons pu en recueillir.
Donc, à Graines de Science, nous avons rencontré les documents Unplugged, l'INRIA Bordeaux, la personne de Didier Roy, la formation Unirobo et puis Scratch, Unirobo avec le robot Timmy. Donc nous avons lancé ce projet, nous sommes allés chercher effectivement 17 enseignants qui nous ont suivis et nous avons pu monter un projet heure numérique soutenu par la DAN avec quelques heures supplémentaires qui étaient prévues. Donc on s'est emparé des 6 heures de formation du plan formation plus quelques heures supplémentaires rémunérées. Et sur ces 17 enseignants, groupe hétérogène, 5 hommes, 12 femmes, la formation scientifique seulement pour 3 d'entre eux. Ils ont donc des élèves de la maternelle à la 6e. Première formation, 4 heures, formation débranchée, c'est-à-dire sans aucun matériel informatique. Nous avons fait vivre à ces enseignants des situations de recherche, le contenu public dans leur classe, des jeux de mime, la machine à trier, du tri de boîte, le jeu de l'orange, des situations qu'on peut retrouver dans le document Unplugged. Nous avons avec eux défini la notion d'algorithme et recherché dans la vie courante des exemples d'utilisation. Il y a eu des activités de codage et de décodage. Nous avons réfléchi sur la construction de la notion de pensée informatique et nous avons donc diffusé pour nos enseignants tous les documents de Plugged, Unirobo. Voilà. Et on les a ensuite reçus sur 3 heures de... Alors ils sont partis dans leur classe et ils ont déjà testé ces activités débranchées. Voilà, ils ont été séduits par ces activités-là. Ils sont venus en janvier pour 3 heures d'activités branchées. Cette fois-ci, on avait réussi à obtenir quelques prêts de robots Timio. Donc avec des robots, on leur a fait vivre la pratique des marges d'investigation, comme ils allaient le faire vivre à leurs élèves. Et en 3 heures, ils ont été capables d'appréhender le robot, de le programmer avec la programmation visuelle, avec des blocs, et réussir quelques missions et tests avec le robot. On a présenté Scratch et ils sont repartis dans leur classe avec cette fois le prêt des robots possibles dans leur classe pour 3 semaines. Nous avons aussi engagé à participer à un festival qui aurait lieu au mois d'avril, qui a eu lieu donc au mois d'avril. Donc eux, ils avaient la perspective de ce festival et ils avaient les activités à réaliser dans leur classe, branchées, débranchées, en expérimental.
Donc nous avons commencé en classe par les activités débranchées, avec des situations de jeu et de recherche à vivre souvent collectivement. Ces activités ont suscité de nombreux échanges entre pairs. Les observations menées dans cette expérimentation permettent de donner une première progression possible. Au cycle 1, des activités de repérage spatial et temporel, puis des recherches de suite logique vont mener à la notion d'algorithme et évoquer la condition et la répétition. Au cycle 2, nous tendrons vers une complexification des consignes et des règles de tri permettant aux élèves de collaborer et de se confronter pour solliciter les échanges et les explications entre pairs. Au cycle 3, nous nous consacrerons à la recherche d'algorithmes lors de jeux simples, dans un premier temps, pour les écrire et les modifier, puis les trouver dans la vie courante, avec les recettes de cuisine par exemple, et dans la vie scolaire avec les règles de grammaire et les schémas narratifs, par exemple. De plus, la découverte du fonctionnement de l'ordinateur et de son lexique renforcera la pensée informatique. En janvier, nous avons commencé les activités branchées grâce à un prêt de robots par nos partenaires, et nous les avons répartis dans les classes pour une durée de 3 semaines sous forme de stages intensifs afin de mener les séances prévues. Plusieurs supports connectés ont été utilisés selon leur disponibilité dans les classes, des ordinateurs de classe, des portables et fixes. Le travail sur les logiciels dédiés à la programmation avec Scratch, Blockly par exemple, et la possibilité avec accès à Internet de participer à l'heure du code ou au concours du castor informatique. Un lot de 9 tablettes a été aussi réparti dans les classes, permettant de découvrir les applications installées pour le projet, telles que Bebot, Livebot, Scratch Junior et Tinker. Des robots, on a eu 40 robots Timio, dont 31 prêtés par nos partenaires, et 2 Bebot. Les domaines de compétences des activités menées sont principalement les suivants. Le repérage dans l'espace avec le déplacement d'objets. En sciences, nous avons la pratique de la démarche d'investigation. La pensée informatique avec l'apprentissage des concepts clés. La pratique de débogage et des exercices de programmation avec des missions à accomplir sous Azeba et Scratch.
Donc, suite à ces activités mises en œuvre en classe, on a pu dégager avec les enseignants, en fait, on va dire la plus-value, ou en tout cas les compétences qui sont exercées dans les classes. Ce qu'on a pu observer, c'est que, qu'elles soient débranchées ou branchées, numérisées plutôt, elles apportent pour nous les bases de la pensée informatique. Alors, c'est sûr que ça peut être défini, et on cherche encore la définition de la pensée informatique. Quoi qu'il en soit, on a pu voir qu'en tout cas, ils arrivaient à découvrir les notions qui sont associées à l'informatique, comme le tri de données, les algorithmes. On a pu évoquer avec eux la notion d'événement, de variable, de boucle, de réitération. Cette pratique leur permet de s'entraîner au raisonnement. Donc, on en parlait ce matin sur le solver problème, la résolution de problèmes. En effet, ça les confronte à exercer des capacités liées à l'abstraction, à la décomposition des problèmes, à la comparaison de données, autant de stratégies cognitives qui pourront transférer à d'autres situations. Programmer en classe, c'est aussi agir par tâtonnement. Donc, comme on l'a dit, on utilise la démarche d'investigation, la démarche d'essai et erreur. On recherche des solutions multiples, notamment en débranché. On cherche les parcours de chacun, les réponses de chacun. L'erreur, elle, n'est pas sanctionnée, au contraire, elle est recherchée. Elle résulte de l'élève qui programme. Et il n'y a pas de médiation avec l'enseignant à ce moment-là. La programmation donne une réponse directe, à l'élève quant à la composition de son programme. Du coup aussi, on a pu observer dans la mise en groupe des enfants que la recherche était motivée par la multiplication des échanges, les explicitations qui étaient sollicitées par les binômes et les négociations et les argumentations qu'ils devaient donner pour, dans la confrontation qu'ils avaient dans les différentes situations. Donc on a vraiment pu sentir l'attractivité de la collaboration pour ce genre d'activité. Enfin, on pourrait dire que programmer, c'est aussi développer son pouvoir esthétique et créatif, on en a aussi parlé ce matin. Grâce à une infinité, cette fois-ci, de scénarios possibles, l'enfant se projette dans ce qu'il a envie de réaliser, qui répondent souvent, quand même, à des impulsions de l'enseignant. C'est l'enseignant qui impulse des missions, on va parler de missions ou de défis. Et du coup, l'élève s'adapte à cette question-là et trouve des solutions et des réponses. Ce cheminement, il est valorisé, notamment sous Scratch, quand on l'utilise, lorsque le projet est enfin concrétisé et qu'une démonstration est possible devant les élèves sur un écran. Donc c'est souvent une démonstration qui est captivante et très dynamique. Et puis, à côté de cette mise en œuvre, on a pu bénéficier avec les prêts de robots d'activités de robotique pédagogique. Et on a pu aussi donc percevoir la plus-value du robot, de l'instrument robot dans ses activités. Donc on retrouve quand même les mêmes capacités que lorsqu'on utilise Scratch par exemple, ou en tout cas les activités débranchées, mais il y a une pertinence à utiliser le robot en classe, en tout cas dans ce qu'on a pu percevoir, c'est que les observations réalisées par les élèves sont beaucoup plus fines, car elles doivent tenir compte des interactions même du robot avec son environnement. On n'est plus sous Scratch où il n'y a que l'écran. On ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Quand on utilise le robot, à ce moment-là, l'environnement, le sol, les capteurs, la lumière, tout entre en jeu et on a tout à observer. C'est la démarche d'investigation qu'on propose dès le début de l'expérimentation qui est menée en classe sur nos robots qui sont préprogrammés, et ça c'est aussi une chose importante, qui va permettre aux élèves de manipuler expérimentalement et de valider des hypothèses, et du coup de déduire le fonctionnement du robot, et puis aussi de connaître les éléments qui le constituent. Donc l'élève doit faire preuve de précision et de méthode pour gérer tous ces paramètres qui impliquent les actions du robot. Ensuite, la programmation, en fait, en elle-même, elle est rapidement abordée en classe par des logiciels qui sont accessibles et simplifiés, qu'on appelle des logiciels de programmation graphique. Et par exemple, en ce qui concerne le Timio, on a une interface qui est vraiment facile avec des blocs visuels qui est accessible pour les enfants dès l'âge de 6 ans, dès le CP. Ils se sont investis dans des tâches de programmation. Puis progressivement, d'autres applications viendront mener des programmations un peu plus complexes jusqu'au langage standard. On a des plateformes comme Blockly, comme Scratch qui participent bien à ces actions-là. Donc il est possible alors de personnaliser le projet, de résoudre des missions qui vont se complexifier au fur et à mesure des âges. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la composition du programme va se confronter à cette réalité du robot qui est un objet tangible qu'on observe, qui réagit à son environnement et qui évolue aussi selon lui. Donc il doit prendre en considération les éléments physiques dont je parlais tout à l'heure, la lumière, les matières, les couleurs, la vitesse aussi, des obstacles qu'il faudra contourner en trouvant des solutions réalistes et du coup créatives. Le robot, il est pertinent dans un milieu scolaire, dans ce qu'on a pu observer, s'il combine plusieurs fonctions nécessaires. Donc là, c'est un petit peu le choix de ce qu'on a pu voir. Un robot, c'est bien qu'il soit préprogrammé, parce que quand on le donne aux élèves, si le robot il sort de la boîte et puis qu'il n'y a rien d'installé dessus, c'est vrai que c'est un peu compliqué en classe. Donc il existe sur le marché des robots préprogrammés qui nous permettent justement qu'on investit rapidement grâce à la démarche d'investigation. Un robot aussi, si possible, il faut qu'il soit robuste, de taille correcte, parce qu'en classe, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais en tout cas, il ne faut pas qu'on puisse le prendre avec beaucoup d'appréhension. C'est chouette aussi qu'un robot puisse avoir une apparence neutre, parce qu'il va pouvoir s'adapter à tous les scénarios imaginables. Donc c'est vrai que certains robots sont un petit peu en image animale, etc. l'animal, on ne va peut-être pas pouvoir lui faire faire tout ce qu'on a envie de faire, alors qu'un robot neutre, en le costumisant, eh ben, on arrive à le faire intégrer des récits mythologiques, comme des paysages montagnards, comme des parcours de policiers, gendarmes et voleurs, on peut faire ce qu'on veut avec. Enfin, on a apprécié aussi, sur certains robots, la possibilité d'extension, c'est-à-dire que sur certains, on peut rajouter des blocs Lego, par exemple, et tout à coup, quand on va mettre un levier Lego, une poulie, un engrenage, ça change encore l'environnement du robot qui est capable de faire autrement les choses qu'on lui avait demandées. Enfin aussi, on a pu observer que quand le robot écrit, ça permet de laisser une trace du parcours. Donc dans les déplacements, c'est très intéressant de pouvoir revenir sur le parcours, là où il y a eu bug, par exemple, de pouvoir trouver l'endroit où le programme a été mal conçu et pouvoir le corriger facilement. Et puis aussi, de pouvoir s'exprimer en créant des dessins, des motifs géométriques ou artistiques. Enfin, il a été relevé vraiment un engouement réel pour le robot dans la classe. Alors on s'est posé des questions sur cet engouement, est-ce qu'il va durer ou pas. En tout cas, le fait est qu'à partir du moment où les robots étaient en classe, il y avait comme une mascotte qu'on donne en maternelle, comme un animal de compagnie qu'on met dans les classes, vraiment un attrait quotidien des élèves vers ces robots. Les robots sont invités tous les jours dans les activités, surtout dans les petites classes. Tout à coup, on est en train de travailler les mesures, on va dire, et lui, le robot, comment on pourrait savoir quelle distance il peut mesurer, combien de temps, etc. Donc, à partir du moment où le robot est dans la classe, il est très sollicité. Et puis, il réagit aux sollicitations des élèves. Donc, ça le rend grandement attrayant, voire fascinant. C'est pas comme un animal où on peut pas faire tout ce qu'on veut avec l'animal, parce qu'éthiquement, il y a un moment donné où on bloque un peu. Donc en fait, et la mascotte, elle est pas très vivante, elle bouge pas, donc c'est vrai que très rapidement, on peut se passer. Alors que le robot, on pense que cette espèce de doudou collectif de la classe vient donner des réponses et une action qui est très aimée par les enfants.
Alors, une approche pluridisciplinaire. Donc, au mois d'avril, s'est tenu le festival qui regroupait une vingtaine de classes, près de 450 élèves. Donc, chaque classe présentait plusieurs ateliers sur les productions réalisées en classe. La diversité des projets a montré que les classes étaient emparées de tas de questions et de thématiques différentes, littérature, en géographie, en mathématiques, en sciences, en arts. Et donc, nous sommes aperçus que la robotique pédagogique s'insère en fait totalement dans différents domaines du socle commun, soit comme objet d'apprentissage, ou comme support d'apprentissage, ou prétexte propice à l'accompagnement de notions. Le défi était organisé dans le dernier temps de la journée. Il consistait pour les élèves par équipe de 5, par classe. On n'a pris que les élèves de classe de CM. Ils devaient programmer leur robot sur un parcours que nous, on avait créé, qu'ils ont découvert le jour même, avec des obstacles. Ils avaient un départ et ils devaient arriver, trouver la sortie. Cette réalisation a permis aux élèves de s'engager. On a vu des équipes s'engager vraiment dans l'activité d'une façon incroyable. Et avec leurs robots, les enseignants qui étaient présents mais qui étaient en retrait, qui n'avaient pas le droit d'intervenir, qui ont joué le jeu. Et ces élèves, ils ont coopéré, ils ont joué le jeu, en fait, nous, de la compétition. Il y a eu entraide, il y a eu coopération pour arriver à programmer ce robot. Donc ils avaient le droit à des essais-erreurs pour permettre à tous les robots de rejoindre la sortie du parcours. Alors, les compétences en jeu. Les enseignants avaient mené des activités et ils ont pu déceler des changements perceptibles du côté de leurs élèves. Et ils ont senti aussi des changements vis-à-vis de leur propre posture à eux aussi. Pour les élèves, la persévérance était développée en réalisation de problèmes. Les élèves sont venus dorénavant des chercheurs de solutions multiples, des élèves qu'on n'arrivait même pas à décrocher. Il fallait qu'ils arrivent au bout, il n'y avait plus de récréation possible, il fallait trouver. Les essais, les erreurs multiples permettent de détourner l'attention. Et la validation du professeur, c'est vrai que quand le robot ne fait pas ce que j'avais prévu, il le dit tout de suite, il n'y a pas besoin qu'un adulte vienne valider quoi que ce soit. Et du coup, les élèves reprennent vite cet objet et vont revoir en tâtonnant quel est le problème, sans même qu'on ait besoin de leur dire quoi que ce soit. Et ils n'ont plus cette idée de l'erreur, c'est nul, t'as tout raté. Donc, c'est erreur et je vais réussir et je vais persévérer. Et ils développent une attitude réflexive sur leur choix. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Une anticipation, la structuration du raisonnement sont nécessaires à la programmation. Ça permet de développer des capacités à gérer les projets et à les mener au bout. De la scénarisation, qui oblige à découper et organiser les tâches, des sous-tâches réalisables. Les élèves parviennent mieux ensuite à organiser leurs données, notamment, on a vu, dans les résolutions de problèmes. La créativité est sollicitée, pour de façon fonctionnelle et de façon esthétique. La curiosité est multipliée par les nombreuses possibilités d'action et les variables qui sont offertes par l'objet robot. Et enfin, lorsqu'il faut déboguer, la précision, la clarté du langage sont obligatoires. Et il faut exposer ses choix, les argumenter, les négocier avec le binôme. Et les dialogues s'enrichissent au fur et à mesure des séances. On n'a pas précisé d'ailleurs que dans le festival, on avait demandé aux élèves aussi une présentation orale au micro, et ils étaient filmés. Et ils se sont très déçus quand la vidéo ne fonctionnait plus. Il fallait vraiment qu'ils soient filmés, et on a même des élèves qui ont présenté en anglais. C'était aussi un bonus demandé.
Enseigner la programmation a suscité au départ, pour nos enseignants testeurs, des interrogations multiples quant à leur légitimité face à ce nouveau domaine qu'aucun ne maîtrise. Cependant, chacun a pu exprimer les changements perceptibles dans son action lors des regroupements et des évaluations menées au cours du projet. Tout d'abord, leur posture a pu être modifiée pendant les séances de programmation. D'une part, ils n'étaient plus dans le rôle traditionnel du maître validant les actions et les décisions des élèves, mais avec l'objet connecté et programmé, l'élève perd son habituel besoin du regard du maître, car les feedbacks lui sont apportés directement par l'objet. D'autre part, la médiation change. L'enseignant ne maîtrise pas non plus la direction du projet de l'élève. Il lui vient en aide si nécessaire, mais cette aide se fait par une explication des procédures réalisées par les élèves qui peuvent guider sa compréhension du problème. L'enseignant sollicite donc par son accompagnement les réactions et la recherche de solutions. Il n'est pas dans la position traditionnelle d'avoir la réponse, il s'habitue à ce nouveau positionnement. Aborder la pensée informatique effraie aujourd'hui bon nombre d'enseignants qui avouent déjà devoir lever beaucoup d'obstacles, notamment matériels, pour les activités numériques. Ils n'ont pour la plupart aucune connaissance de la programmation et estiment même que leurs élèves en savent plus qu'eux. Nous avons fait le choix de présenter en formation les activités débranchées en premier, afin qu'ils puissent faire des liens avec les activités déjà réalisées dans les classes. Une fois cette prise de conscience établie, le lien vers la programmation tangible est favorisé. Le choix du robot pédagogique est aussi vecteur de confiance. L'entrée se fait par les mathématiques et les sciences technologiques pour déboucher vers l'informatique. Les liens se font ensuite dans le contexte de la classe, où l'on découvre que l'algorithmie est présente dans de nombreuses notions, ce qui encourage les enseignants à développer cette pensée logique. Les projets en cours peuvent intégrer cette dimension de nombreuses manières. L'engagement des enseignants s'est fait sans hésitation. Ils étaient portés par le groupe, ainsi constitué, et liés par les sollicitations qui ont favorisé les échanges et ont vite dissipé l'inhibition habituelle dans ce genre de proposition. Les ressources utilisées qui sont en open source leur ont été fournies directement, des tournages et des films, des activités réalisées. La valorisation de leurs actions les a mis en confiance et a permis une audace perceptible, l'audace d'un esprit pionnier sur les terres de la pensée informatique, nouveau domaine non conquis en territoire pédagogique.
Donc, s'il faut conclure, on a retenu des actions, des verbes qui pour nous ont vraiment été
mis en éclairage durant cette année de test. Le premier qui nous est venu, c'était le mot persévérer, parce qu'on a vraiment vu dans les classes des élèves qui persévéraient, qui avaient envie de continuer et de fournir des efforts, des élèves qui collaboraient par groupe de deux ou trois, qui arrivaient à se mettre d'accord, à argumenter, qui manipulaient, beaucoup de manipulation, les espaces de classe sont changés, les élèves sont par terre en train de tester, on utilise les salles de motricité, on utilise l'extérieur aussi. Des élèves qui explicitent, on l'a vu au festival, ils étaient tous capables de nous dire, vraiment adultes ou enfants, pères ou pas, d'expliciter ce qu'ils étaient en train de nous montrer, comment ils avaient conçu leurs ateliers. Penser évidemment avec tout le bagage de raisonnement qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Et le point important aussi sur le débrancher, parce qu'on voit bien dans nos formations que c'est comme ça qu'on impacte nos enseignants, c'est sur la formation débranchée. Donc, ce qui nous reste à faire maintenant à l'année 1 plus, on va dire, du projet, puisque l'année dernière, c'était un peu l'année zéro, on multiplie les sessions de formation qui vont permettre la diffusion de mise en œuvre réalisable, pragmatique, en classe. Elles sont réalisées, elles sont réalisables de nos situations. Et on imagine pouvoir évaluer plus finement, on parlait tout à l'heure de mesures ce matin. On a très envie de pouvoir mesurer tout ça, l'impact sur les élèves, sur les enseignants. Donc nous voilà aujourd'hui maintenant avec un nouveau programme. Et puis pour vous montrer, pour conclure un petit peu, on va vous passer deux vidéos qui reprennent, si on a le temps, je ne sais pas au niveau gardien du temps, qui reprennent un petit peu nos activités. Alors au niveau du son, par contre, je ne suis pas allée chercher le son, je crois.
Là, il tourne en rond parce qu'il cherche du noir. et il n'y a pas noir. Par contre, si on met sur ce trait, il va avoir un peu noir, donc il va, hésiter.
Alors que là, il n'a pas hésité.
Là, il va pas hésiter, vous verrez, il va suivre la ligne noire.
Et là, il va faire un demi-tour.
Pourquoi ?
Parce que ça a été préprogrammé comme ça.
D'accord, mais comment le robot sait qu'il peut avancer sur noir là ?
Bah, parce qu'il a des capteurs dessous. Il a des capteurs qui captent le noir très foncé.
Et là, on voit que ça a déjà été utilisé.
Et là, quand il n'y a plus rien au bout, et ben, il fait un demi-tour.
Comme là, par exemple, sur les bouts de bois, il va faire que des demi-tours.
Dernière vidéo, si on a toujours le temps, c'est un projet qui a été réalisé par des élèves de CM2 l'année dernière, CM2, dans la classe donc d'Anne-Hélène. Tu veux expliquer un peu?
Alors rapidement, c'était un projet qui était mené au départ un petit peu. Ça a été, le choix a été fait de faire une petite vidéo pour participer au festival de Roboscar pour Bobby et Timmy au fond leur cinéma à l'INRIA de Bordeaux. Et donc les enfants ont voulu s'en saisir pour pouvoir mettre Timmy en tant qu'acteur.
Sa question.
Moi, je ne sais pas vous, je suis juste totalement bluffé. Je vous connaissais puisque on vous a prêté des robots, mais que vous ayez réussi à faire un truc aussi merveilleux. Donc, vous avez vraiment un devoir de partage. Il faut écrire un bouquin, faire un film. Il ne faut pas juste avoir réussi ça.
Ouais, ouais, mais... Donc là, ce que je n'ai pas présenté en dernière diapo, il y a en effet sur la diapo, tout est répertorié sur TIS74, qui est la plateforme départementale des TIS, où on a mis à alimenter au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'on n'avait pas vocation au départ d'en faire ce qu'on en a fait, hein, c'est venu petit à petit ce projet. Et donc on a nourri, Marie qui a nourri ce site-là, cette plateforme, toute l'année avec petit bout par petit bout, donc vous pouvez nous retrouver là-dessus. On a aussi quelques articles dans Pixies, tibio.org, je pense aussi, va bientôt les publier, et du Scol, donc on a deux collègues qui ont travaillé pour les nouveaux programmes.
Voilà, j'ai travaillé avec une autre collègue, conseillère pédagogique, sur les fichiers du Scol. Il y a la machine à trier, en activité branchée, le jeu de mime, et vous avez dit robot, voilà, qui détaille quelques petites séances pour commencer.
Et je pense qu'effectivement, Thierry, tu as raison sur le partage, pour la poursuite du partage, mais avoir, je dirais, parce que c'est un petit peu plus compliqué de sortir éventuellement des collègues qui ont charge de classe pendant 3 jours, comme sur Educatis, c'est le village du code, même si, alors, je suis désolé, ça s'appellera village du code, parce que c'est très... Donc, village de la programmation, pour lesquels vous serez là et où on est effectivement en recherche actuellement, on va dire, sur deux petits espaces à partager avec ces chercheurs qui répondent en même temps à toutes nos questions. Donc voilà, on en discute après, je pense, mais ça fait partie des possibles. Est-ce que dans la salle, vous avez des remarques, suggestions, questions ?
Oui, donc moi je me joins volontiers aux compliments de Thierry. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, mais le polymètre, c'est vous les championnes de la journée. Hein.
Bon, Timio et les drôles de dames.
Et j'ai quand même une petite question. La liste des verbes que vous avez choisi est intéressante. Moi, elle me semble bien montrer en plus en quoi... les activités que vous avez proposées à vos élèves participent bien à toutes les compétences qu'on cherche à travailler dans le cadre du socle commun. Ces verbes, ils font penser aussi. Il y a un verbe dont je m'étonne un peu de l'absence. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un verbe qui fait sérieux et peut-être un peu rébarbatif ? C'est le verbe abstraire. Parce que moi, il me semble que dans ces activités, il y a un développement de l'abstraction, l'explicitation y participe. Hein. Le verbe penser, bien sûr, j'imagine qu'il y a de ça aussi. Est-ce que vous êtes posé la question ou est-ce que vous avez eu un moment l'envie de mettre le verbe abstraire ? Vous avez dit non, finalement, il vaut mieux pas parce que ça risque d'être mal compris ou de faire peur, ou est-ce que c'est tout à fait autre chose ?
Alors, c'est vrai que c'est un mot qui peut faire peur, déjà, dans le milieu. Ceci dit, le terme « penser » regroupe en effet « raisonner », donc « décomposer »,« abstraire »,« généraliser », ça a été dit à un moment donné dans le dossier, là. Pourquoi « penser » et « expliciter » expliciter, c'est tout ce qui est oral dans la classe. Et c'est vrai qu'on voit bien que le nouveau programme, c'est vraiment aussi la maîtrise de la langue orale. Et nous, ce que nous ont rapporté les enseignants, hein, moi je suis conseillère pédagogique, j'étais en classe en observatrice, et pas comme pas en impulsion de deux classes vraiment, c'est les retours en groupe, ça a été, on n'a jamais vu autant les élèves discuter de leur projet. Ils étaient vraiment dans l'argumentaire, dans la négociation, ça a vraiment levé des actions, un dynamisme dans la classe. C'est des enseignants qui ont 20-25 ans de pratique et qui... en mettant des robots dans leur classe, sans aucune appréhension, mais ni compétence au départ, pas du tout, arrivent au bout de 3 mois à nous sortir ce genre de phrases. Donc c'est pour ça qu'on a privilégié le mot explicité et qu'en effet l'abstraction est dans la pensée. Ceci dit, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment aller chercher, tout ce raisonnement-là. On a postulé sur un IFRAN, on aurait aimé qu'il y ait des études là-dessus de notre côté, parce qu'on a le vivier. On a les classes, on a les enseignants qui sont prêts à aller dans ce sens-là, et on aimerait voir cet impact-là, ça c'est sûr.
Y a-t-il d'autres questions ?
Merci pour cette super présentation également. Je voulais poser une question sur l'usage des robots, parce que vous avez présenté des tas d'avantages, mais est-ce que vous sauriez dissocier ce qui relève de la motivation des élèves, l'ambiance générale de la classe, voilà, et puis de compétences spécifiques en résolution de problèmes. Dit autrement, est-ce que, si on prend le point de vue juste simplement en résolution de problèmes, est-ce qu'utiliser des robots, ça a un avantage spécifique, et à ce moment-là, quel est-il ? ou est-ce que c'est plus dans l'ambiance générale, le projet, le défi, la motivation?
Alors, je vais essayer de répondre à votre question. Lorsqu'ils ont les robots face à eux, ils sont effectivement dans cette idée de recherche, et puis effectivement, mon robot, mes maîtresses, pourquoi il ne fait pas ce que je lui ai demandé de faire, et qu'est-ce qui se passe? Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'avec toutes les activités débranchées que l'on avait fait auparavant, ils arrivent à se corriger et dire en fait, finalement, c'est pas le robot qui fait pas ce que je lui demande, c'est moi qui lui ai pas donné la bonne information et le bon algorithme à faire. Donc je vais essayer de trouver la solution. Et si j'y arrive pas, ben, je vais aller chercher mes camarades et on va essayer d'y arriver tous ensemble. Parce qu'avant, ils ont fait effectivement des activités débranchées qui leur ont montré que la collaboration était plus que nécessaire. Et du coup, après ça, pour avoir fait des rallymaths dans ma classe, j'ai pu observer uniquement cette année, je l'ai fait, j'avouerai des rallymaths, j'ai pu observer cette transcription, en fait. Ils ont utilisé ce qu'ils avaient trouvé chez les robots pour le réadapter en maths, où là, ils se sont dit, non mais il faut qu'on trouve la réponse, maîtresse, absolument, et tant qu'on n'arrive pas jusqu'au bout, on ne s'arrête pas, quoi. C'est pas possible, la récréation, le repas, non, il nous faut notre réponse. Donc je pense qu'effectivement, ils ont juste besoin d'aller au bout pour pouvoir... ils sont vraiment dans cette envie de trouver la solution et lorsqu'elle est possible. Parce qu'elle est possible. C'est pas possible pour eux qu'il n'y ait pas de réponse.
Je peux rien. Il a rendu la nôtre. Si tu en as un autre. Ah, il faut l'allumer. Ça revient un peu.
Ça revient un peu. Moi, j'ai beaucoup aimé la simplicité dans les deux interventions. Et je me posais la question, la simplicité, mais avec cette réflexion, cette démarche et le réalisable dans les deux cas. Et je me posais la question de savoir si il ne fallait pas systématiser cette démarche, que ce soit celle de Thierry qui nous explique simplement, je dirais en dédramatisant et sans prendre de grands mots sur c'est quoi l'algorithmie, qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et puis bon, il a toujours ce talent de raconteur, hein, voilà, tu as ce talent en plus. Mais et de votre côté, de dire systématiquement le débrancher pour revenir expliquer et passer par cette phase-là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, du coup, aussi bien à l'adresse des enseignants que des élèves, à l'adresse des enseignants aussi, puisque de débrancher, il est aussi enseignant-élève, est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, ce petit point systématique qui nous ramène à certains fondamentaux en permanence?
Pour réexpliquer simplement les choses.
Il est bien programmé, le micro. Alors, moi, je donne la partie inintéressante de la réponse. Oui, pour ce qui est des chercheurs qui essayent d'expliquer simplement les choses, côté INRIA, on nous a formés. C'est-à-dire que c'est pas, enfin, quel que soit le niveau des gens, c'est pas immédiat. Et ça s'apprend. Et le deuxième élément, c'est que c'est expérimental. Vous savez, c'est comme ces comiques minimalistes, Florence Foresti et son avion Barbie. Elle l'a pas inventé tout seul, elle l'a testé. Donc, ce qui fait qu'une métaphore marche, c'est le fait que ça marche pour les publics. Par exemple, la grenouille ne marche pas en dessous du CE2. La première fois que j'ai fait passer un caillou devant une grenouille, il y a une môme qui, par chance, faisait le tiers de mon poids, qui s'est levée avec la haine, qui m'a dit « Mais c'est toi qui es bête, c'est pas la grenouille !» Donc, cette métaphore marche, parce que elle marche pour une certaine culture, un certain niveau. Elle a raison, il faut être très très con pour faire bouffer les cailloux et une grenouille. À vous de répondre à la partie compliquée.
C'est pas compliqué. En fait, c'est du vécu. C'est-à-dire qu'on parle de situation débranchée, mais ce qu'il faut imaginer, c'est que quand on a fait les formations, on a fait vivre les situations débranchées aux enseignants. Et c'est vrai qu'on voit, par exemple, classe code, formation à distance, voilà, il y a y a la machine à trier qui existe, vous mettez ça en place, vous faites ci, vous faites ça. Non, nous tous, tout ce qu'on peut avoir comme retour pour l'instant, Marik et moi et Anne-Hélène, on l'a fait pour maintenant, je crois, 4 groupes, hein, pour dire ça comme ça, 4 groupes de 12 à 17 personnes. C'est au moment où on se lance adulte dans la machine à trier, on l'a toutes vécu personnellement, où on est devant ce drap et on se dit, alors si je vais à gauche, c'est que je suis plus petite, si je vais à droite. Et là, tout à coup, ça s'éclaire. Ah oui, l'algorithme, c'est ça. Bon, d'accord. Après, on va amener la dichotomie avec « trouve ton nom dans une liste de mots ». Comment vous avez fait ? Ah oui, alors... Et c'est là, en fait, qu'on capte les enseignants, où ils se rendent compte que oui, alors l'algorithme, c'est quelque chose que je vis tous les jours. C'est vrai qu'il y en a partout. Donc ça, oui, c'est intéressant pour mes élèves. C'est ça que je veux leur montrer. Donc, on vit vraiment ces situations collectivement. On n'a que 6 heures hein, de formation. On a vraiment le modèle. Donc, vous parlez diffuser quelque chose... On a l'impression, c'est vrai, qu'on a quelque chose qui est vraiment réaliste et qui fonctionne, en tout cas, à Evian.
Ces activités débranchées, on les a fait vivre aux enseignants. Moi-même, quand j'ai rencontré le document et le plugin, au départ, je suis restée un peu sceptique. Et effectivement, j'ai eu la chance de vivre 2-3 situations. Et c'est là que c'est parti. Et effectivement, en faisant vivre aux enseignants, on les accroche. Et eux-mêmes, ils disent « Ah oui !» Dans mon enseignement, j'aimerais bien mettre de la manipulation, puis je ne prends jamais le temps, je ne le fais jamais. Et ça, je vais le faire. Et finalement, ils s'aperçoivent qu'en faisant manipuler, qu'en faisant vivre par le corps, les élèves, ils acquièrent ces compétences en les vivant. Ça passe par le corps, la droite, la gauche. On s'est aperçu que nos élèves de CM2, droite et gauche, on pense que déplacement sans quadrillage, c'est facile, on l'a fait à la maternelle, on n'en parle plus. Or, en CM1, CE2, CM, ils ont besoin encore. On a vu les petites filles tout à l'heure sur le film avec droite-gauche, on n'entendait pas bien. Et puis c'était coupé, mais à un moment, la première dit « Mais la droite du robot, il va à droite, il va à droite. » Et l'autre répond « Mais ta droite ou la mienne ?» Et voilà, ça pose quand même question sur ce qu'on fait à la maternelle, et ce qu'on fait au CM2, et ce qu'on fait entre-temps.
D'autres remarques ou questions ?
Alors, je vous épargne la vanne sur « c'est pas les seuls à avoir un problème entre ta droite ou la mienne », mais par contre, moi, je trouve que je ne vous ai pas répondu à Alain, je ne suis pas d'accord. La question, c'est comment vous faites pour aller chercher celles qui ne sont pas Timio et les drôles de dames ? Comment vous faites pour aller chercher les 300 000 profs qui ne sont pas encore complètement convaincus ? Ça, c'est une question.
La question, on va dire, c'est pas que le lac. Non, c'est, je pense que c'est un projet d'équipe. Donc, nous, quand on a lancé ça l'année dernière, on avait envie de jouer, je pense aussi au départ. Hein, on voulait faire quelque chose d'autre. À Evian, on sait faire les festivals de sciences. Ça fait plusieurs années qu'il y a des manifestations comme ça. Donc, ça ne faisait pas peur d'accueillir 450 élèves. Et puis, c'est vrai qu'on a été chercher ces premiers enseignants. C'est des enseignants qu'on connaît, qu'on côtoie, qu'on a l'habitude de voir. On a tout été dans les classes. Ça fait seulement 3 ans que j'ai quitté les classes, donc je les connais. Donc on leur a dit, on veut lancer un projet. Ça dit, on verra. De toute façon, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on va peut-être avoir des robots. On ne savait rien au mois de mai quand on les avait sollicités. On ne savait rien de ce qui allait se passer. On avait juste une valise de 5 Timio prêtée par l'INRIA, dont on était sûr, c'est tout ce qu'on avait. Mais voilà, on s'est lancé là-dedans, on a construit ce format de formation, on s'est dit on fait le débrancher, après on verra combien de robots on aura, on ne savait pas. Et je pense que ce qui a permis cette adhésion, c'est qu'on est collègues, c'est-à-dire que ça n'a pas été descendant. On a été dans leur classe, on leur a proposé des aides. Marie qui est allée dans les classes, dans certaines classes, pas toutes, hein, en disant « Moi, je te fais la machine à trier, je prends tes élèves. Ah oui, c'est comme ça que tu fais. Bon. » Et du coup, le fait aussi, on en a parlé, de l'esprit pionnier, de faire confiance aux enseignants, de leur dire « Personne n'a trop jamais réalisé ça, mais allez-y, faites ce que vous voulez, on ne sait pas quoi vous dire, faites ce que vous voulez. » On a vu une pléthore de réponses complètement différentes. On a eu peur à un moment donné, au moment de l'organisation du festival, on a eu une réunion. Et bon, alors qu'est-ce que tu fais avec ta classe ? Un parcours Timio. Qu'est-ce que tu fais avec ta classe ? Un parcours Timio. Bon, on avait 16 parcours Timio. On s'est dit, mince, on n'aura pas assez de robots. Comment ça va être tout pareil ? Et en fait, quand on voit les vidéos du festival que vous pouvez retrouver sur YouTube, on a eu 17 réponses différentes avec des capteurs différents, des mises en situation. Je parlais de mythologie, de pays là qu'on travaille la géographie, d'autres qu'on travaille les maths, les capteurs, la lumière, enfin, la bande noire, la mesure, combien de centimètres pour que les capteurs ne voient plus noir. Enfin, ça a été vraiment dans des directions qu'on n'attendait pas. Et aussi dans le débrancher, aller chercher les pixels, le codage, le cryptage, etc.
Des gamins de CM2 qui ont expliqué le binaire au principal du collège.
C'est la confiance.
Donc ça nous fait vraiment des pistes. Moi j'ai entendu des activités clés en main. J'ai entendu, on crée une dynamique. Et si je me souviens des copains de la Malapad qui ont fait un 2-3 codés, je les ai entendus dire des choses assez précises aussi. Vous avez entendu, à chaque fois, il y a un scénario. Donc tu ne fais pas du tignot, putain, c'est chiant. Non, non, tu vas sur la planète Mars, tu fais une fouille archéologique. Et donc j'ai bien compris, et j'ai le droit de poser les questions au public. J'ai bien compris, ils vont réagir, j'ai bien compris que vous scénarisez et que vous avez un scénario pédagogique qui met en musique les différentes notions pour passer d'une notion à l'autre. Et puis alors, il y a aussi un autre truc qui est entendu, après j'arrête de pontifier, c'est le débrancher, pas le brancher. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez remarquable, c'est que vous commencez par sortir de l'ordinateur pour expliquer comment il marche, on commence par jouer au robot avant d'aller le programmer. Et ensuite, on fait des allers-retours entre les deux. J'ai bien récité ma leçon. Alors qu'est-ce qu'ils en profitent, les profs de la salle là, qui se moquent de moi? Non, il ne se moque pas.
Je voulais vous signaler aussi pour un 2-3 codé, Anne-Hélène et moi-même, on a testé des séances aussi en sous-marin pendant l'année, puisqu'on n'avait pas le droit de dire ce qu'on faisait, puisque ce n'était pas publié. Mais donc on a participé aussi à un 2-3 codé. Donc en fait, tout se recoupe.
Par contre, on n'a pas utilisé les mêmes séances.
Oui, on n'a pas utilisé les mêmes séances dans nos séances de formation. Donc ça permet aux collègues aussi d'aller voir d'autres choses après dans un 2-3 codé.
Oui, voilà.